Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 16 février 2021. Bonjour, bienvenue. La fièvre hémorragique Ebola a fait 5 morts selon un nouveau bilan publié lundi en Guinée où les autorités sanitaires, les Nations Unies et des ONG comme Médecins Sans Frontières organisent la riposte avec l'espoir d'éviter le scénario catastrophe de l'épidémie de 2013-2016 en Afrique de l'Ouest. Les autorités sanitaires, les Nations Unies et des ONG organise la riposte avec l'espoir donc d'éviter ce scénario catastrophe. Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé lundi l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes en marge d'un sommet des cinq pays du Sahel avec la France à N'Djamena. Cette annonce intervient au moment où la France souhaite voir les pays de la région assumer le relais militaire, mais aussi politique de son engagement au Sahel, vieux de 8 ans. Les ministres de la Défense du G5 Sahel, Tchad, Niger, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, se sont rendus lundi à Ngigmi, près de la frontière avec le Tchad, où sont stationnés les soldats qui seront ensuite déployés dans la région des trois frontières, selon la télévision d'État tchadienne. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé hier le directeur de la compagnie minière publique, Sama Lukonde Kyenge, comme premier ministre en remplacement d'un allié de l'ancien président Joseph Kabila, Sylvestre Ilunga Ilukamba, démissionnaire le mois dernier. La nomination de Sama Lukonde Kyenge, directeur général de GKMINE et allié de l'actuel président, devrait aider Félix Tshisekedi à installer un gouvernement plus loyal à son égard et à pouvoir ainsi faire avancer ses politiques. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a une nouvelle fois fait faux bond hier à la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée durant ses 9 années au pouvoir, défiant ainsi une décision de la justice sud-africaine. Cette fois, Zuma risque une amende ou la prison pour outrage, a mis en garde le président de la commission, le juge Raymond Zondo, qui a déjà prévenu qu'il saisirait une nouvelle fois la Cour constitutionnelle après ce nouvel affront. Une salve de roquettes a frappé hier soir une base aérienne dans le Kurdistan irakien, tuant un employé civil et en blessant 5 autres ainsi qu'un soldat américain, a annoncé la coalition menée par les États-Unis. Au moins 3 roquettes ont été tirées vers Erbil, la capitale de cette région autonome du nord de l'Irak, et l'une a atteint une base sur laquelle des troupes américaines sont stationnées selon la coalition. L'attaque a été revendiquée en ligne par un groupe peu connu qui se fait appeler Aulia Aldam, les gardiens du sang. La vice-présidente des États-Unis Kamala Harris et le président français Emmanuel Macron ont plaidé lundi en faveur d'une coopération bilatérale et multilatérale étroite face au COVID-19 et au changement climatique lors d'un entretien téléphonique. Au cours de ce premier échange, la vice-présidente américaine et le chef de l'État français se sont dit d'accord sur le besoin d'une coopération bilatérale et multilatérale étroite pour faire face au COVID-19, au changement climatique et soutenir la démocratie partout dans le monde, a indiqué la vice-présidente américaine dans un communiqué. La Russie et les États-Unis discutent d'un possible échange de prisonniers qui pourrait garantir la libération de Paul Whelan, un ancien soldat du corps américain des Marines, emprisonné pour espionnage, a déclaré lundi à Reuters l'avocat de Whelan. La justice russe a jugé l'année dernière Paul Whelan coupable d'espionnage et l'a condamné à une peine de 16 ans d'emprisonnement. Whelan nie les accusations et s'est dit victime d'un coup monté. L'avocat russe de Paul Whelan a déclaré pour sa part que des discussions sur un échange avaient désormais lieu entre la Russie et les services américains de sécurité. VOA Afrique Info en ligne de mire dans ce journal. Cameroun, des forces de l'ordre arrêtées pour avoir torturé un terroriste en zone anglophone. Rebondissement dans l'affaire du génocide au Rwandais. Paris aurait laissé partir des génocidaires en 1994. COVID-19, feu vert de l'Organisation mondiale de la santé, à un vaccin pour les pays pauvres. Et vague de froid sans précédent aux États-Unis, et ce jusque dans le sud du pays, au climat naguère plutôt clément. Jean-Roger Billon, nous sommes le mardi 16 février 2021. On revient dans un instant. Nous émettons de Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La suite de nos informations ce mardi 16 février 2021. Au Cameroun, le ministère de la Défense a annoncé hier soir la mise aux arrêts de 8 éléments des forces de défense et de sécurité. Ils sont accusés d'avoir commis jeudi dernier des actes de torture sur un civil en zone anglophone. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
D'après le communiqué du ministère de la Défense, les auteurs de cet acte de torture sont 2 gendarmes, 2 militaires et 4 policiers. Tous ont été identifiés dans une vidéo amateur publié sur la toile ce week-end et mis aux arrêts sur instruction du ministre de la Défense. La vidéo en question met en scène 8 éléments des forces de défense en train d'interroger, de violenter et de passer à tabac un civil soupçonné d'être un relais criminel et terroriste local. La scène s'est déroulée en Dou, une localité de la région du Nord-Ouest. Le porte-parole du ministère de la Défense dénonce dans son communiqué, citation, des agissements intolérables en rupture avec des règles d'engagement et la protection des droits humains auxquels les éléments des forces de défense et de sécurité sont fermement astreints. Fin de citation. Des enquêtes disciplinaires, administratives et judiciaires ont été prescrites par le haut commandement contre les 8. Des organismes de défense des droits de l'homme et certains partis politiques de l'opposition ont demandé qu'ils soient jugés et condamnés. Yaoundé, Emmanuel Jundap, VOA Afrique.
Du nouveau au sujet du génocide rwandais de 1994, un télégramme diplomatique révélé par le journal Mediapart montre que la France avait décidé de ne pas interpeller les autorités rwandaises responsables du génocide. Un document qui relance le débat sur le rôle joué par la France pendant ce triste événement. Les détails avec Mouhamadou Mfa.
Le télégramme a été révélé dimanche par le journal français Mediapart. Il date du 15 juillet 1994 et est signé de Bernard Aimier, alors conseiller du chef de la diplomatie française, aujourd'hui patron des services de renseignement extérieur français. On y apprend que l'ambassadeur Yannick Girard, alors représentant du Quai d'Orsay au Rwanda, dans le cadre de l'opération militaro-humanitaire turquoise, avait réclamé des instructions claires sur la conduite à tenir vis-à-vis des responsables qui, selon lui, portaient une lourde responsabilité dans le génocide. Vous pouvez utiliser tous les canaux indirects et notamment vos contacts africains en ne vous exposant pas directement afin de transmettre à ces autorités notre souhait qu'elles quittent la zone humanitaire sûre, lui répond le télégramme. Vous soulignerez que la communauté internationale et en particulier les Nations Unies devraient très prochainement déterminer la conduite à suivre à l'égard de ces soi-disant autorités, poursuit le texte. La révélation de ce télégramme pose de nouveau la question du véritable rôle de l'armée française déployée au Rwanda, notamment de l'opération turquoise, a réagi Maître Éric Plouvier, avocat de Survie, une association engagée contre la France-Afrique. L'enquête judiciaire sur Turquoise, accusée par des survivants d'avoir sciemment abandonné des centaines de Tutsis, massacrés fin juin 1994, n'a toujours pas été tranchée par les juges.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi avoir accordé son homologation d'urgence au vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, une étape qui ouvre la voie à la distribution de centaines de millions de doses à des pays défavorisés, privés jusque-là d'immunisation. Les explications d'Abdourahman Dia.
Cette procédure aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité de médicaments. Elle permet au dispositif COVAX mis en place pour assurer un accès équitable aux vaccins d'en commencer la distribution. Des pays sans accès à des vaccins jusqu'à aujourd'hui vont finalement être capables de commencer l'immunisation de leur personnel soignant et des populations vulnérables, contribuant à l'objectif d'une distribution équitable par le système COVAX, a déclaré la docteure Marie-Angela Simao, la sous-directrice générale de l'OMS chargée de l'accès aux médicaments et aux produits de santé. Le vaccin d'AstraZeneca représente en effet l'immense majorité des 337 millions de doses de vaccins que le dispositif COVAX entend distribuer au premier semestre de cette année. Ces doses sont fabriquées en Corée du Sud et en Inde par le Serum Institute of India. L'homologation concerne ces deux versions selon un communiqué de l'agence onusienne. Bien que considérée comme moins efficace que les vaccins de Pfizer and BioNTech et Moderna, celui d'AstraZeneca a l'énorme avantage de pouvoir être stocké avec des moyens de réfrigération classiques.
Les États-Unis affrontent une vague de froid sans précédent en ce début de semaine avec un vent de l'Arctique qui devrait faire s'effondrer les températures même dans des États du Sud, ont prévenu les services de météorologie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Pluie vert glaçante, chute de neige, un froid polaire enveloppe depuis plusieurs jours les États-Unis. Plus habitué au record de chaleur qu'à la glace et à la neige, le Texas est particulièrement affecté par cette vague de froid historique. Certaines parties de l'État ont même vu la température chuter jusqu'à moins 18 degrés Celsius le week-end écoulé, tandis qu'une ville comme Houston a atteint moins 9 degrés hier. Plus de 2,6 millions de foyers étaient sans électricité hier dans le Lone Star State en raison des chutes de neige. Le Texas a déclaré un état d'urgence pour raisons climatiques dans les 254 comtés de l'État approuvés par le président Joe Biden. Dans le centre du pays, les températures ont atteint des records pendant le week-end avec moins 45 degrés Celsius dans certaines contrées du Minnesota, un des États les plus froids des États-Unis. Au-delà du Texas, au moins 6 États, Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi, ont émis des déclarations d'état d'urgence. Plus de 3000 vols ont été annulés à travers le pays et plus de 1000 devraient être annulés ce mardi, selon le site FlyAway.
C'est à présent l'heure de la Minute Éco, présentée par John Lindon.
Au Cameroun, le gouvernement veut intéresser les particuliers au financement de l'économie nationale, selon le quotidien bilingue Cameroun Tribune. Le montant des épargnes logées dans les banques au pays est estimé à plus de 4 000 milliards de francs CFA, dont environ 30% appartenant aux ménages. Très peu de cet argent est utilisé pour le financement de l'économie afin, par exemple, d'aider à la réalisation des projets d'infrastructure. Voilà donc qui justifie la campagne de vulgarisation engagée par la Direction générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire du ministère des Finances afin de redynamiser les marchés secondaires des titres publics. Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur au prix courant durant le mois de janvier 2021 ont montré une baisse de 7,9% des exportations contre moins 4,2% durant le mois de janvier 2020, selon des données de l'Institut national de la statistique. De même, les importations ont enregistré une baisse de 10,1% contre moins 14,2% durant le mois de janvier 2020. Malgré certaines contestations exprimées, Abuja a finalement lancé les travaux d'un méga-projet de près de 2 milliards de dollars. Il s'agit de la construction du chemin de fer allant de Kano au Nigeria à Maradi au Niger.
Et maintenant, la page de sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Les matchs de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans se poursuivent en Mauritanie. Le groupe C entre dans la danse ce soir. Le Ghana joue la Tanzanie et le Maroc la Gambie. Hier, l'Ouganda s'est emparé de la tête du groupe A en disposant du Mozambique 2-0. Il est suivi du Cameroun qui s'est imposé en ouverture dimanche devant le pays hôte 1-0. Que de matchs nuls dans le groupe B hier. 0-0 entre le Burkina Faso et la Tunisie et 1-1 entre la Namibie et la République centrafricaine. En Europe, les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions débutent ce soir. En pleine déconfiture, en championnat, Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keïta et Joël Matip retrouvent ce mardi donc Leipzig dans un choc à haut risque délocalisé à Budapest pour des raisons sanitaires. À suivre aussi PSG FC Barcelone, Neymar et Angel Di Maria blessés, Kylian Mbappé porte l'essentiel des espoirs du Paris Saint-Germain. Ici aux États-Unis, la Ligue nord-américaine de basketball a reporté le match prévu ce soir entre Détroit et San Antonio en raison du coronavirus, les Spurs n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de 8 est requis. Un membre de l'équipe texane a été testé positif, a ajouté la Ligue sans préciser s'il s'agit d'un joueur ou d'un membre de l'encadrement. Selon le protocole de la NBA, toute personne testée positive ou identifiée comme ayant été en contact étroit avec une personne contaminée doit être mise en quarantaine. Depuis que la saison a débuté le 22 décembre, 25 matchs ont été reportés à cause du coronavirus. Toujours ici en NBA, l'ailier vedette des Lakers, Anthony Davis, sorti prématurément dimanche du match perdu à Denver 122-105, souffre d'une élongation au mollet droit et sera absent durant 2 à 3 semaines Comme l'avait annoncé dimanche son entraîneur Frank Vogel, Davis a réaggravé sa blessure au pourtour de son tendon d'Achille droit, initialement affecté par une tendinite. Les Lakers devraient finir sans lui la première partie de saison, soit 9 matchs jusqu'à la pause du 3 mars, qui les verra notamment recevoir le rival de l'Est Brooklyn, jouer une revanche de la dernière finale contre Miami et se déplacer à Utah, actuel leader à l'Ouest.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Tchad, les chefs d'État du G5 Sahel clôturent aujourd'hui à N'Djamena les travaux de leur 7e conférence, une réunion censée promouvoir un sursaut diplomatique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président français a participé à ce sommet par visioconférence, alors que la présence massive des éléments de la force Barkhane dans la sous-région est vivement critiquée. Réaction ici de quelques citoyens tchadiens dans le reportage d'André Kotbajinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Dans la rue de N'Djamena, les citoyens ont des avis partagés au sujet du retrait de ces éléments sur le territoire national. Si certains pensent qu'ils ont échoué à leur mission, d'autres en revanche estiment que leur retrait sera un déluge pour les pays du Sahel.
Si réellement ce déploiement est fait pour pouvoir contrer ces terroristes ou bien les anéantir, c'est qu'en 8 ans, on aurait pu avoir du résultat. Et il faut automatiquement retirer toutes ces forces-là. Faudrait pas qu'à chaque fois ça pleurniche et que ça aille chercher la France.
Aujourd'hui, nos armées n'ont pas le matériel sophistiqués, tandis que l'armée Barkhane a tout ce qu'il faut, parce que eux-mêmes, sur place, ils regardent déjà tout ce qui se passe par leurs drones, par leurs satellites. Or, nos armées n'ont pas ces capacités.
D'ailleurs, je pense qu'il y a un débat autour de ça au niveau de la France. On veut diminuer le nombre de Barkhane. Ils sont à 5000 maintenant, on veut le dire ça. Même au niveau du Tchad, je ne pense pas que ce soit encore un meilleur choix.
Pour Ndiekuninga Kautar, Lazar, membre de la société civile tchadienne, l'Afrique a des bras valides, certes, mais pas les moyens logistiques conséquents pour faire face aux djihadistes qui écument les pays du G5 Sahel.
En matière de guerre, l'appui technique, par exemple l'aviation et surtout les renseignements sont très très importants. Si par exemple les Occidentaux se retirent, est-ce que la bande du Sahel avec les G5, est-ce qu'ils ont des moyens de renseignement sophistiqués pour détecter tout ça? Mais en matière des hommes de terrain, je pense que les Africains connaissent mieux leur terrain que les Occidentaux. Quand vous prenez par exemple l'armée tchadienne connaît mieux le Sahel. Quand vous prenez l'armée nigérienne et autres. Donc les hommes et les femmes, l'Afrique en dispose. Mais comment les rendre plus performants? C'est ce que nous devons nous poser comme question.
D'autres citoyens estiment que les forces Barkhane ont un agenda caché et donc cette messe politique n'est pas les bienvenues. Pour eux, la priorité des Tchadiens à l'heure actuelle est ailleurs.
Au nom de la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, on opprime le peuple tchadien. C'est à cause de cette lutte contre le terrorisme que les Occidentaux, en général, soutiennent encore notre président, que nul n'ignore dictateur. Donc, moi, je suis contre aujourd'hui ce sommet qui se tient ici au Tchad.
La force Barkhane a des milliers de personnes ici. Et ces éléments qui sont au niveau de Sahel, ils dépassent même pas en 200 ou 300. Et ça fait 8 ans qu'on cherche à les combattre. Ça peut pas marcher. Donc, la force Barkhane n'a rien fait. N'eût été, n'est-ce pas, protéger certains de leurs intérêts ici. Via, n'est-ce pas, certains responsables qui donnent tout ce que eux, ils veulent. Et voilà, en contrepartie, la force Barkhane les aide, n'est-ce pas, à une longévité, n'est-ce pas, au pouvoir. Alors, je dis clairement au maréchal du Tchad, il n'a qu'à écouter la rue.
La 7e conférence du G5 Sahel se tient sur fond de crise politique en N'Djamena. L'opposition et une partie de la société civile hostile au 6e mandat du président Déby appellent toujours à la rue. Ce lundi, pendant que le chef d'État était en conclave, la police nationale a dispersé violemment les manifestants en petits groupes, perturbant ainsi les cours dans les établissements scolaires dans les quartiers périphériques de la capitale. André Kodumbajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Mandia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, un sommet du G5 Sahel se tient à N'Djamena avec la participation de la France engagée depuis 8 ans aux côtés des pays de la région dans la lutte contre le terrorisme. Malgré cela, les groupes djihadistes continuent de sévir dans la zone, les populations civiles payant le plus lourd tribut. Des milliers de personnes ont perdu la vie et 2 millions ont été déplacés. Au-delà de l'aspect militaire, le sommet de N'Djamena cherche aussi des solutions politiques et diplomatiques à la crise au Sahel. Nous en discuterons avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a nommé hier Jean-Michel Sama Lukonde au poste de Premier ministre après avoir mis fin à la coalition qu'il formait au sommet de l'État avec son prédécesseur Joseph Kabila, qui est le nouveau chef du gouvernement congolais. Eddy Sango a joint à Kinshasa un député de la nouvelle coalition pro-Tshisekedi, l'Union sacrée pour la nation, Patrick Muyeya.
Ce que l'on sait de lui en premier, c'est qu'il a été député national durant la législature 2006-2011 et que par la suite, il a été durant la législature, une partie, disons, de la législature 2011-2015, ministre de la Jeunesse et des Sports. Et il avait renoncé à ses fonctions lorsque le G7 avait pris la décision de quitter le camp du président Kabila pour dénoncer toutes les manœuvres de révision de la Constitution et que par la suite, il a été candidat aux dernières élections pour le camp du regroupement Palou et Alliés et que quelques mois après il a été désigné pour diriger la GECAMINE. Mais entre-temps, c'est lui qui a toujours engagé le parti politique Avenir du Congo. C'est une figure qui n'est pas du tout nouvelle dans la scène politique.
Il est jeune, 43 ans, mais que peut-on attendre de lui face aux défis qui se présentent devant le pays?
Le nouveau Premier ministre Sama Lukonde est plutôt d'un profil discret, mais je pense aussi qu'il connaît la scène politique dans son ensemble, parce que si vous regardez dans son parcours, il a été avec le président Kabila, il a fourbi ses armes dans l'opposition avant de se rallier au président Tshisekedi. Je pense que tout ça est un atout qui pourra servir justement dans la partie politique qui entoure sa fonction. Mais ici, il faut qu'il mette vite les caps sur l'essentiel, c'est les réformes électorales, économiques et du secteur de la justice et de la défense, pour voir dans quelle mesure très rapidement on peut commencer à donner des solutions aux problèmes de l'Est, parce qu'il y a un volet économique aux problèmes sécuritaires à l'Est, pour voir aussi dans quelle mesure on peut préparer les élections attendues dans les prochains mois. On a perdu 2 ans, la CENI n'a pas encore été remplacée, et je ne parlerai pas de l'économie qui conditionne le social. Donc les priorités sont multiples. La jeunesse, en l'occurrence, pour lui, représente un atout dans un pays qui est immensément peuplé des jeunes. C'est à eux qu'il faut parler, c'est eux qu'il faut mettre au travail, c'est eux qu'il faut mobiliser.
Du grand Katanga comme l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi comme une autre grande figure de la politique, Moïse Katumbi, n'est-il pas une solution de réchange ou un point d'apaisement au regard de la tension qu'il y a actuellement dans cette région?
L'équation katangaise, si je peux m'exprimer ainsi, est une composante qui a guidé le choix du président de la République, et je crois que avoir choisi Sama Lukonde, qui est plutôt jeune, qui n'a pas trempé de manière directe dans une quelconque forme de conflit politique avec l'une ou l'autre personnalité, vous en avez cité quelques-unes, je pense que c'est un atout, et aujourd'hui, toutes ces personnalités katangaises se reconnaissent en lui, et surtout qu'il est né d'un père qui a fourbi ses armes aussi dans la politique, mais vous savez, les Katangais, comme les Kinois, comme le Gomatracien, ont besoin de solutions. Il ne sera pas le Premier ministre que pour régler les problèmes du Katanga, il sera le Premier ministre de tous les Congolais, de quelque bord que ce soit et dans tout le pays. Il faudrait bien qu'il se mette à l'ouvrage et pour tout le monde, pour le bien de son mandat.
Le président Félix Tshisekedi a réussi à retourner la majorité en sa faveur, causant le courroux, la colère du FCC, la famille de l'ancien président Joseph Kabila. Pensez-vous que le choix de Sama Lukonde, un ancien du FCC, va permettre à apaiser la tension avec Joseph Kabila et sa famille politique?
Tout le monde a un passé dans ce pays et je ne pense pas que le fait pour le Premier ministre Sama d'avoir un moment appartenu au FCC devrait être considéré comme un élément qui aujourd'hui doit marquer la stabilité. Non, je crois qu'il sera animé d'un esprit républicain, l'esprit qui va travailler pour aider le président de la République à accomplir son devoir vis-à-vis de tous les Congolais.
C'était Patrick Muyaya, député du PALU, parti membre de la nouvelle coalition pro-Tshisekedi, l'Union sacrée pour la nation.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Guinée, l'apparition de nouveaux cas d'Ebola préoccupe les autorités. Après les décès dans le sud du pays, les autorités sanitaires demandent des vaccins à l'Organisation mondiale de la santé pour empêcher la propagation de la maladie. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Cet officiel, la Guinée, a enregistré une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. Les 7 cas positifs sont tous des Gueké dans le sud du pays. L'Agence nationale de sécurité sanitaire parle de 3 décès à la suite de l'enterrement d'une infirmière. Dans la capitale, c'est l'inquiétude chez certains Guinéens.
Le retour d'Ebola, ça m'inquiète. Si Ebola retourne en Guinée, c'est pas bon pour les Guinéens. Déjà, notre économie est en terre. Je l'appelle le OMS. Maintenant, il n'a qu'à aller au zéro couré pour traiter les 7 maladies, pour que les maladies restent là-bas. Mais si ça vient encore à créer là où on est en train de galérer comme ça, là, il y a le galère du coronavirus, il y a le galère de Ebola. Non, nous, on va quitter le pays, là.
L'effet que l'Ebola nous a causé ici, financièrement, c'est-à-dire économiquement et socialement, ça a déchiré beaucoup de choses. Vouloir entendre aussi que la même maladie s'est fait refaire en Guinée, vraiment c'est un cas effrayant.
Au terme d'une réunion d'urgence dimanche à Conakry, les autorités sanitaires guinéennes ont décidé d'envoyer des missions d'enquête à Zéro Corée pour éviter des contaminations. Docteur Sakuba Keïta, directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire.
Il y aura une investigation qui va aller aider les autorités sanitaires de Zéro Corée pour pouvoir délimiter la zone touchée. Il y aura une deuxième mission pour tracer les itinéraires du cas qui s'est évadé de Zéro Corée qui a été isolé à Conakry pour trouver toutes les personnes avec lesquelles ils ont eu des contacts.
La Guinée ne dispose pas de vaccin contre Ebola. Pour Sakuba Keïta, il y a une urgence d'en demander à l'Organisation mondiale de la santé.
Des contacts ont été pris avec l'OMS. Avant la fin de la semaine prochaine, nous allons tout faire pour que ces vaccins-là soient disponibles en Guinée.
Entre 2013 et 2016, Ebola avait fait plus de 2500 décès en Guinée. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Direction Gao au Mali, face à la recrudescence de l'insécurité dans la région, le gouverneur a pris des mesures fortes qui vont de l'interdiction de tirer des coups de feu de tout type d'armes pendant les cérémonies de réjouissance à un couvre-feu de 21h à 5h du matin pour une période de 2 semaines sur toute l'étendue de la région. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
La situation sécuritaire est de plus en plus inquiétante dans la région de Gao. Il ne se passe pas une nuit où on n'entend pas des coups de feu dans la ville de Gao. Il ne se passe pas un jour sans un braquage en ville ou sur les routes reliant les grandes villes. C'est ainsi que le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, a sorti une décision le vendredi dernier interdisant formellement à tout individu d'effectuer un coup de feu de tout type d'armes à feu de tout calibre pendant les cérémonies de réjouissance. La circulation des véhicules non immatriculés est également interdite entre les villes, les villages, les hamous et même dans les campements. Et enfin, il est instauré dans toute la région de Gao un couvre-feu de 15 jours reconductible allant du lundi 15 février au 1er mars 2021 de 21h à 5h du matin. Tout contrevenant à ces dispositions s'exposera aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, insiste-t-il. Les populations de la région de Gao interrogées par rapport à ces dispositions, apprécient à juste titre et expriment le vœu qu'elles n'épargnent personne et qu'elles soient aussi dans la durée. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
I don't know why.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde, Georges Léonard Sagnot et Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.